5. Oh purée, il a pris cher, Faucon. Fanny Brahimi m'adressa un clin d'œil et m'embrassa chaleureusement. Elle aussi avait bien changé. D'origine kabyle, c'était une petite blonde aux yeux clairs et aux cheveux courts, juchée sur de jolis escarpins, les jambes moulées dans un jean ajusté. Les deux boutons défaits de son chemisier laissaient deviner la naissance de ses seins, et son trench coat cintré allongeait sa silhouette. Dans une autre vie, je l'avais connue en apôtre du grunge, traînant ses Doc Martens au cuir usé, noyé dans des chemises de bûcheron informes, des cardigans rapiécés et des 501 déchirés. Plus débrouillarde que moi, Fanny était parvenue à trouver une coupe de champagne. « Par contre, j'ai pas réussi à dégoter du pop-corn », me dit-elle en s'asseyant sur la marche à côté de moi, comme si nous allions assister à la projection d'un film. Comme quand elle était lycéenne, elle portait autour du cou un appareil photo, un Leica M, et commença à prendre des clichés de la foule. Je connaissais Fanny depuis toujours. Maxime, elle et moi, avions été ensemble à l'école primaire du quartier de la Fontaine, celle que l'on appelait également la vieille école, avec ses beaux bâtiments Troisième République, par opposition aux préfabriqués de l'école René Cassin que la ville d'Antibes avait ouverte plus tard. Pendant notre adolescence, Fanny avait été pour moi une amie proche. C'était la première fille avec laquelle j'étais sorti, au collège, en classe de troisième. Un samedi après-midi, nous étions allés voir Rainman au cinéma. Et au retour, dans le bus qui nous ramenait à la Fontaine, alors que nous avions chacun un des écouteurs de mon Walkman dans une oreille, nous avions échangé quelques baisers maladroits. 4 ou 5 patins entre « puisque tu pars » et « pourvu qu'elle soit douce ». Nous étions sortis ensemble jusqu'en première, et puis nous nous étions éloignés, tout en restant amis. Elle faisait partie de ces filles mûres et libérées qui, à partir de la terminale, avaient commencé à coucher à droite à gauche sans s'attacher à personne. C'était rare à Saint-Aix, et beaucoup la condamnaient. Moi, je l'avais toujours respectée, tant elle m'apparaissait comme l'incarnation d'une certaine forme de liberté. C'était une amie de Vinca, une élève brillante et une fille gentille, trois qualités qui me la rendaient chère. Après ses études de médecine, elle avait beaucoup bourlingué entre médecine de guerre et missions humanitaires. Je l'avais revue par hasard quelques années plus tôt dans un hôtel de Beyrouth, où j'assistais au salon du livre francophone, et elle m'avait confié son intention de rentrer en France. « T'as repéré d'anciens profs ?» me demanda-t-elle. D'un signe du menton, je lui désignai M. Ndong, M. Lehmann, ainsi que Mme Fontana, prof respectivement de maths, de sciences physiques et de sciences nat. Une belle brochette de sadique, lâcha Fanny en les prenant en photo. Sur ce point, je peux pas te donner tort. Tu travailles à Antibes ? Elle hocha la tête. Depuis 2 ans, je bosse en cardiologie à l'hôpital de la Fontaine. J'y soigne ta mère. Elle te l'a pas dit ? À mon silence, elle comprit que je n'étais pas au courant. Elle est suivie depuis son petit infarctus, mais ça va bien, assura Fanny. Je tombais des nues. Ma mère et moi, c'est compliqué, dis-je pour évacuer le sujet. C'est ce que disent tous les garçons, non ? Demanda-t-elle, sans chercher à en savoir davantage. Puis elle pointa du doigt une autre enseignante. Elle était cool ! S'exclama-t-elle. Il me fallut un moment pour la reconnaître. Mademoiselle de Ville, une prof américaine qui enseignait la littérature anglaise en prépa littéraire. En plus, elle est encore canon, souffla Fanny. On dirait Catherine Zeta-Jones. Mademoiselle de Ville mesurait 1,80 m. Chaussée de talons hauts, sanglée dans un pantalon de cuir et une veste sans col, elle avait des cheveux longs et raides qui tombaient sur ses épaules comme des baguettes. Avec son physique svelte et élancé, elle paraissait plus jeune que certaines de ses anciennes élèves. Quel âge avait-elle lorsqu'elle était arrivée à Saint-Aix ? 25 ans ? 30, tout au plus ? Comme j'étais en prépa scientifique, je ne l'avais jamais eue comme prof. Mais je me souvenais qu'elle était très appréciée par ses élèves, en particulier par certains garçons qui lui vouaient une sorte de dévotion. Pendant quelques minutes, Fanny et moi continuâmes à observer nos anciens condisciples en évoquant nos souvenirs. En l'écoutant, je me rappelais pourquoi j'avais toujours apprécié cette fille. Elle dégageait quelque chose de positif et d'énergique. Et elle avait de l'humour, ce qui ne gâchait rien. Pourtant, elle n'avait pas eu un début facile dans l'existence. Sa mère était une jolie blonde à la peau mate et au regard à la fois doux et tueur qui travaillait comme vendeuse à Cannes dans un magasin de fringues de la Croisette. Quand nous étions au CP, elle avait quitté son mari et ses 3 enfants pour suivre son patron en Amérique du Sud. Avant d'être admise en internat à Saint-Ex, Fanny avait vécu presque 10 ans avec son père, paralysée après un accident de travail sur un chantier. Avec ses 2 frères aînés, qui n'étaient pas franchement des Lumières, ils habitaient dans une HLM décrépite du boulevard du Val-Claret. Pas le genre d'endroit qui figurait sur les guides touristiques d'Antibes-Juan-les-Pins. La cardiologue lâcha encore quelques missiles, faciles mais réjouissants. Étienne Labitte, il a gardé sa tête de gland. Puis me dévisagea avec un drôle de sourire aux lèvres. La vie a redistribué certains rôles, mais toi tu es toujours le même. Elle me pointa dans le viseur de son Leica et captura mon portrait en continuant sa tirade. Le premier de la classe, BCBG, propre sur lui, avec sa belle veste en flanelle et sa chemise bleu ciel. Venant de toi, je comprends bien que c'est pas un compliment. Détrompe-toi. Les filles n'aiment que les bad boys, non? À 16 ans, oui, pas à 40. J'ai haussé les épaules, plissé les yeux et mis ma main en visière pour me protéger du soleil. Tu cherches quelqu'un? Maxime. Notre futur député. J'ai fumé une clope avec lui du côté du gymnase, là où doit avoir lieu notre soirée de promo. Il avait pas l'air pressé de venir faire campagne. Putain, t'as vu la gueule d'eau de paradis? Complètement décalqué, la pauvre! T'es sûr qu'il n'y a pas de pop-corn, Thomas? Je pourrais rester des heures assise ici. C'est presque aussi bien que Game of Thrones. Mais son enthousiasme fut subitement douché lorsqu'elle aperçut 2 employés en train d'installer une petite estrade et un micro. « Sorry, je vais zapper les discours officiels », m'annonça-t-elle en se mettant debout. De l'autre côté des gradins, Stéphane Pianelli prenait des notes, en pleine conversation avec le sous-préfet. Lorsqu'il croisa mon regard, le journaliste de Nice Matin m'adressa un signe de la main qui devait signifier quelque chose comme « Bouge pas, j'arrive ». Fanny épousseta son jean et, dans son style bien à elle, décocha une dernière flèche. « Tu sais quoi ? Je crois que t'es un des rares mecs sur cette place avec qui j'ai pas couché. » J'aurais voulu répondre quelque chose de spirituel, mais rien d'approprié ne me vint parce que ces paroles ne cherchaient pas à être drôles. Elles étaient tristes et très exagérées. « À l'époque, tu étais en adoration devant Vinca », se souvint-elle. « C'est vrai, admis-je. J'étais amoureux d'elle. Un peu comme tout le monde ici, non ?»« Oui, mais toi, tu l'as toujours idéalisée. » Je soupirai. Après la disparition de Vinca et la révélation de son idylle avec l'un des profs du lycée, les rumeurs et les ragots s'étaient déchaînés pour transformer la jeune femme en une sorte de Laura Palmer azuréenne, Twin Peaks au pays de Pagnol. Fanny, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Comme tu voudras. C'est sans doute plus facile de faire l'autruche. Living is easy with eyes closed, comme chantait l'autre. Elle rangea son boîtier dans son sac, regarda sa montre et me tendit sa coupe de champagne encore à demi pleine. Je suis à la bourre et j'aurais pas dû boire ce truc. Je lui garde cet après-midi. À la prochaine, Thomas. VI. La directrice déroula son discours, un pensum creux dont certains cadres de l'éducation nationale s'étaient fait une spécialité. Originaire de la région parisienne, cette Madame Guirard n'était pas en poste ici depuis longtemps. Elle n'avait qu'une connaissance livresque de l'établissement et récitait des banalités de technocrate. En l'écoutant, je me demandais pourquoi mes parents n'étaient pas venus. Ils avaient dû être invités en tant qu'anciens proviseurs. Je les avais cherchés sans succès dans la foule et leur absence m'intriguait. Après avoir terminé son couplet sur les valeurs universelles de tolérance, d'égalité des chances et de dialogue entre les cultures que porte depuis toujours notre établissement, la directrice énumérait à présent les personnalités éminentes qui avaient fréquenté le lycée. J'en faisais partie au milieu d'une 10aine d'autres, et lorsque mon nom fut cité et applaudi, quelques regards se tournèrent vers moi. J'esquissai un sourire un peu gêné avant d'ébaucher un vague « merci » de la tête.
« Ça y est, t'es grillé, l'artiste !»
me prévint Stéphane Pianelli en s'asseyant à côté de moi.
« Dans quelques minutes, on viendra te faire dédicacer des livres. On te demandera si le chien de Michel Drucker aboie entre les prises et on voudra savoir si Anne-Sophie Lapix est aussi sympa une fois que les caméras s'éteignent. »
Je pris garde de ne pas relancer Pianelli, mais il continua son monologue.
On te demandera pourquoi t'as fait mourir ton héros à la fin de quelques jours avec toi, et d'où te vient ton inspiration. Et lâche-moi un peu, Stéphane. De quoi voulais-tu me parler? C'est quoi cette histoire d'article? Le journaliste s'éclaircit la voix. T'étais pas sur la Côte d'Azur le mois dernier?
Non, je suis arrivé ce matin.
Ok. T'as déjà entendu parler des cavaliers de mai?
Non.
Mais j'imagine qu'on les voit pas courir à l'hippodrome de Cannes-sur-Mer.
Très drôle.
En fait, il s'agit d'un phénomène de refroidissement qui se produit parfois au milieu du printemps et qui occasionne des gelées tardives.
Tout en parlant, il sortit une cigarette électronique de la poche de son blouson.
Ce printemps sur la côte, le temps a été complètement pourri. Il a d'abord fait très froid, puis nous avons eu des pluies torrentielles pendant plusieurs jours.
Je le coupai.
Sois bref, Stéphane. Tu vas pas me réciter le bulletin météo des dernières semaines.
D'un geste du menton, le journaliste désigna au loin les bâtiments colorés de l'internat que le soleil faisait briller de mille feux.
Il y a eu des inondations dans les caves de plusieurs dortoirs.
C'est pas nouveau. T'as vu la pente du terrain? Déjà, à notre époque, ça arrivait une année sur deux.
Oui, mais le week-end du 8 avril, l'eau est montée jusqu'au hall d'entrée. La direction a dû ordonner des travaux dans l'urgence et faire vider entièrement les sous-sols.
Pianelli tira quelques bouffées sur sa cigarette et rejeta une sorte de vapeur d'eau qui sentait la verveine et le pamplemousse. À côté des cigares de Che Guevara, la vision du révolutionnaire en train de vapoter sa tisane avait quelque chose de ridicule.
L'établissement s'est notamment débarrassé de dizaines de vestiaires métalliques rouillés qui étaient entreposés dans les caves depuis le milieu des années 1990. Une entreprise spécialisée dans les encombrants a été mandatée pour les transporter à la décharge. Mais avant qu'elle intervienne, certains élèves se sont amusés à ouvrir les casiers. Et tu devineras jamais sur quoi ils sont tombés.
Dis-moi.
Le journaliste ménagea son effet le plus longtemps possible. Sur un sac de sport en cuir qui contenait 100 000 francs en billets de 100 et de 200 balles. Une petite fortune restée planquée ici depuis plus de 20 ans.
Donc, les flics sont venus à Saint-Ex?
Je m'imaginais les gendarmes en train de débarquer dans l'établissement et toute l'agitation que cela avait dû provoquer.
Ça, on peut le dire.
Et comme je le raconte dans mon article, ils étaient même très excités. Une vieille affaire, du pognon, un lycée prestigieux. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils passent tout au peigne fin.
Pour quel résultat?
L'info n'est pas encore sortie, mais je sais qu'ils ont trouvé sur le sac deux empreintes digitales parfaitement exploitables.
Et
l'une d'elles était fichée.
Je retins mon souffle pendant que Pianelli préparait une nouvelle banderille.
À voir la flamme qui dansait dans ses yeux, je compris que celle-ci allait faire très mal.
C'était l'empreinte de Vinca Rockwell.
Je clignai des yeux plusieurs fois en encaissant l'info. J'essayais de réfléchir à ce que tout cela signifiait. Mais mon cerveau tournait à vide.
Quelles sont tes conclusions, Stéphane?
Mes conclusions? C'est que j'avais raison depuis le début,
s'emporta le journaliste.
À côté de la politique, l'affaire Vinca Rockwell était l'autre grande marotte de Stéphane Pianelli. Une quinzaine d'années plus tôt, il avait même écrit sur le sujet un livre au titre schubertien, La jeune fille et la mort. Un travail d'enquête sérieux et exhaustif, mais qui n'apportait pas de révélations fracassantes sur la disparition de Vinca et de son amant.
Si Vinca s'était vraiment fait la malle avec Alexis Clément, reprit-il, elle aurait emporté cet argent. Ou du moins, elle serait revenue le chercher.
Son raisonnement me semblait léger.
Rien ne dit que c'était son fric, rétorquai-je.
Ce n'est pas parce qu'il y avait ses empreintes sur le sac que l'argent était à elle.
Il en convint, mais contre-attaqua. Avoue quand même que c'est dingue. D'où venait ce pognon? 100 000 francs? Dans ces années-là, c'était une somme énorme.
Je n'avais jamais bien compris quelle était sa thèse exacte à propos de l'affaire Rockwell. Mais pour lui, la version de la fugue ne tenait pas la route. Sans véritable preuve, Pianelli croyait dur comme fer que si Vinca n'avait jamais donné signe de vie, c'est parce qu'elle était morte depuis longtemps. Et qu'Alexis Clément était probablement son assassin.
Qu'est-ce que ça implique au niveau judiciaire?
J'en sais rien, répondit-il dans une moue vague. Ça fait des années que l'enquête sur la disparition de Vinca a été classée. Quoi qu'on trouve à présent, ça sera prescrit, non?
L'air pensif, il se frotta la barbe du revers de la main.
C'est pas dit. Il y a toute une jurisprudence complexe sur la question. Aujourd'hui, dans certains cas, le délai de prescription ne dépend plus de la commission de l'acte, mais de la découverte éventuelle d'un corps. Alors qu'il me fixait dans les yeux, je choisis de soutenir son regard. Pianelli était certes un chasseur de scoop, mais je m'étais toujours interrogé sur l'origine de son obsession pour cette vieille affaire. Pour autant que je m'en souvienne, il n'était pas un intime de Vinca. Il ne se fréquentait pas et n'avait guère d'atomes crochus. Vinca était la fille de Pauline Lambert, une actrice née à Antibes. Une belle rousse aux cheveux courts, sosie presque parfaite de Marlène Jobert, qui, dans les années 1970, avait tenu de petits rôles dans des films d'Yves Boisset et d'Henri Verneuil. Le point d'orgue de sa filmographie, une scène seins nus de 20 secondes avec Jean-Paul Belmondo dans La Choumoun. En 1973, dans une boîte de nuit de Juan Lépin, Pauline avait rencontré Mark Rockwell, un pilote automobile américain qui avait brièvement tenu un volant de F1 chez Lotus et avait couru plusieurs fois les 500 miles d'Indianapolis. Rockwell était surtout le dernier fils d'une famille influente du Massachusetts, principal actionnaire d'une chaîne de supermarchés très présente dans le Nord-Est. Consciente que sa carrière piétinait, Pauline avait suivi son amoureux aux États-Unis où le couple s'était marié. Vinca, leur fille unique, était née dans la foulée, à Boston, où elle avait passé ses 15 premières années avant d'être scolarisée à Saint-Ex à la suite du décès tragique de ses parents. Le couple Rockwell faisait partie des passagers tués lors d'une catastrophe aérienne à l'été 1989. Leur vol avait subi une décompression explosive en quittant l'aéroport d'Hawaï. Le drame avait marqué les esprits, car à cause de l'ouverture accidentelle de la soute, les 6 rangées de sièges de la classe affaires avaient été déchiquetées et expulsées hors de l'appareil. L'accident avait fait 12 victimes et, pour une fois, les plus riches avaient trinqué. Une anecdote qui n'avait pas dû déplaire à Pianelli. De par ses origines familiales et son comportement, Vinca incarnait donc, en apparence, tout ce que Pianelli détestait. Une fille à papa de la haute bourgeoisie américaine. Une héritière élitiste et cérébrale, férue de philosophie grecque, du cinéma de Tarkovsky, de la poésie de Lautréamont. Une fille un peu poseuse, à la beauté irréelle, qui ne vivait pas dans le monde, mais dans son monde. Une fille enfin qui, sans en avoir conscience, était vaguement méprisante par rapport au jeune type dans son genre.
« C'est tout ce que ça te fait, bordel !»
m'apostropha-t-il soudain. Je soupirai, haussai les épaules et jouai le détachement. « C'est loin tout ça, Stéphane. »«
C'est loin ? Pourtant, Vinca était ton ami. T'étais en adoration devant elle. J'avais 18 ans, j'étais un gamin. J'ai tourné la page depuis longtemps. Te fous pas de moi, l'artiste. T'as rien tourné du tout. Je les ai lus, moi, tes romans. Vinca y est partout. On la retrouve dans la plupart de tes héroïnes. »
Il commençait à m'agacer. « Psychologie à 2 balles, digne de la rubrique astrologique de ton canard. » À présent que le ton était monté, Stéphane Pianelli était comme électrisé. Son exaltation se lisait dans ses yeux. Vinca l'avait rendu fou, comme elle avait sans doute rendu fou d'autres types avant lui, même si ce n'était pas pour les mêmes raisons.
« Tu peux dire ce que tu voudras, Thomas. Je vais reprendre l'enquête, sérieusement cette fois. »«
Tu t'y es déjà cassé les dents il y a 15 ans, » fis-je remarquer.
« La découverte de ce fric change tout. Autant de liquide, qu'est-ce que ça cache d'après toi ? Moi, j'y vois 3 possibilités. » Un trafic de drogue, de la corruption ou un méga chantage.
Je me massai les paupières. T'es en train de te monter un film, Pianelli.
Pour toi, l'affaire Rockwell n'existe pas.
Disons qu'elle se résume à l'histoire banale d'une petite nana qui s'est tirée avec le mec qu'elle aimait. Il grimaça.
Même toi, tu crois pas une seconde à cette hypothèse, l'artiste. Retiens bien ce que je te dis. La disparition de Vinca est comme une pelote de laine. Un jour, quelqu'un va réussir à tirer le bon fil et toute la plot se déroulera. Et qu'est-ce qu'on découvrira ? Quelque chose de plus énorme que tout ce qu'on avait imaginé.
Je me levai pour mettre fin à la conversation.
C'est toi qui devrais écrire des romans. Je pourrais t'aider si tu cherches un éditeur.
Je regardai ma montre. Il était urgent que je trouve Maxime. Soudainement calmé, le journaliste se leva à son tour et me donna une tape sur l'épaule.
« À plus tard, l'artiste. Je suis sûr qu'on va se revoir. »
Il avait ce ton qu'aurait employé un flic qui viendrait de lever ma garde à vue. Je boutonnai ma veste et descendis une marche. J'hésitai quelques secondes et me retournai. Pour l'instant, je n'avais pas commis de faux pas. Il ne fallait surtout pas lui donner le moindre grain à moudre, mais une question me brûlait les lèvres. J'essayais de la poser avec le plus de détachement possible.
Tu m'as bien dit qu'on avait retrouvé l'argent dans un vieux vestiaire.
Ouais.
Concrètement, c'était lequel?
Un vestiaire peint en jaune canari, la couleur de la résidence Henri Matisse.
C'est pas le bâtiment où vivait Vinka ?
M'écriai-je d'un air triomphant. Sa chambre d'étudiante était dans le pavillon bleu, la résidence Nicolas de Staël. Pianelli approuva.
T'as raison, j'ai déjà vérifié.
T'as une sacrée mémoire, dis-moi, pour quelqu'un qui a tourné la page.
À nouveau, il me défia de ses yeux brillants, comme s'il venait de me piéger, mais je soutins son regard et avançai même un autre pion.
Et le casier, il y avait un nom, écris-tu ?
Il secoua la tête.
Après toutes ces années, tu penses bien que tout a été effacé ?
Il n'y a pas d'archives sur les attributions des vestiaires ?
À l'époque, on ne s'emmerdait pas avec ça,
fit-il en ricanant.
En début d'année, les élèves prenaient le casier qu'ils voulaient, et premier arrivé, premier servi.
Et dans ce cas précis, c'était quel casier ?
Pourquoi tu veux savoir ça ?
Par curiosité. Tu sais ce truc dont les journalistes ne sont pas dépourvus ?
J'ai publié la photo dans mon article. Je ne l'ai pas sur moi, mais c'était le casier A1. Le premier compartiment en haut à gauche. Ça te dit quelque chose ?
Rien du tout.
So long, Stéphane.
Je tournai les talons et pressai le pas pour quitter la place avant la fin du discours. Sur l'estrade, la proviseure terminait son allocution et évoquait à présent la destruction prochaine de l'ancien gymnase et la pose de la première pierre du chantier le plus ambitieux qu'ait connu notre établissement. Elle remerciait les généreux donateurs, grâce à qui ce projet, qui était dans les tuyaux depuis plus de 30 ans, verrait bientôt le jour. L'édification d'un bâtiment réservé aux classes préparatoires, la création d'un grand jardin paysager et la construction d'un nouveau centre sportif doté d'une piscine olympique. Si j'avais encore des doutes sur ce qui m'attendait, ils venaient de se dissiper. J'avais menti à Pianelli. Je savais très bien à qui appartenait autrefois le casier dans lequel on avait retrouvé l'argent. C'était le mien.